Bon réveil à tous, voici le journal de Valentin Bertrand. Bonjour Valentin.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. À la une, Auchan en pleine revente de ses supermarchés en Russie. Le distributeur, très critiqué pour son choix de rester malgré la guerre en Ukraine, serait-il en train de changer de stratégie ?
En Croatie, une victoire des conservateurs se dessine à l'issue des élections législatives. La gauche populiste du président candidat est distancée.
Des cordons bleus avec moins de viande et de fromage, la cheapflation a toujours cours dans les rayons. L'ONG Foodwatch alerte. Marguerite Caton, votre question du jour.
La psychiatrie peut-elle répondre au mal-être des enfants et des adolescents ?
Ce sera juste après ce journal. Les supermarchés Auchan seraient-ils en train de quitter la Russie sur la pointe des pieds ? Plus de 2 ans après le début de l'invasion russe en Ukraine, la plupart des groupes français ont revendu leurs activités dans le pays de Vladimir Poutine. Pas les enseignes de la famille Mullier, les magasins de bricolage Leroy Merlin, ont officiellement été cédés, mais une enquête de l'Express pointe un montage financier, pas un réel départ. Quant à Auchan, le maintien de son activité a été très critiqué. Changement de méthode ces derniers jours, le distributeur a revendu les murs de ses centres commerciaux. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour.
Correspondant de France Culture en Russie, cette cession s'est effectuée dans des conditions particulièrement opaques.
Oui, la presse russe affirme que la filiale immobilière d'Auchan a vendu 40 centres commerciaux. Mais le siège de Nude, en France, parle de 19 seulement. L'acheteur est une mystérieuse société russe dirigée par un jeune avocat de 23 ans que personne ne connaît et qui a toutes les apparences d'un prête-nom. Le montant de la transaction est inconnu, mais ce n'est certainement pas une bonne affaire pour le groupe français. Le gouvernement russe impose un rabais d'au moins 50% pour les sociétés occidentales qui veulent quitter le pays. C'est une sorte de taxe à la sortie et la négociation se fait sous la menace d'une saisie pure et simple des biens par l'État. C'est ce qui est arrivé à Danone, qui a vu ses usines placées sous gestion temporaire avant de pouvoir trouver un accord avec un acheteur pour un montant là aussi inconnu.
Et Sylvain, est-ce que cela signifie qu'Auchan va fermer ses magasins en Russie ?
Alors non, a tout de suite précisé Auchan, qui est particulièrement surveillé par le pouvoir russe parce qu'il y a un enjeu social notamment. Il emploie 30 000 salariés. L'enseigne a dit qu'elle ne comptait pas fermer ses 230 magasins russes, même si ses affaires sont nettement moins florissantes. Chiffre d'affaires en baisse de 5% l'an dernier, bénéfice divisé par 10. La situation économique, quoi qu'en dise le Kremlin, n'est pas florissante en Russie et le marché est devenu très risqué. D'où peut-être cette volonté d'Auchan de céder ce qui peut l'être encore, les murs, même à prix bradé.
Sylvain Tronchet, depuis Moscou. Les Ukrainiens, eux, attendent beaucoup de l'examen samedi d'une nouvelle aide américaine de 61 milliards de dollars. Ce vote intervient après des semaines de blocage de la part des parlementaires conservateurs. Une autre enveloppe de 14 milliards de dollars pour Israël sera également mise au vote. Et alors que la guerre Israël-Hamas s'inscrit dans la durée, les Palestiniens espèrent intégrer l'ONU. Leur demande d'adhésion sera examinée aujourd'hui ou demain, après un premier refus en 2011. Celle-ci risque de se heurter au veto des États-Unis. Après les élections législatives en Croatie, le début de longues tractations. Selon les résultats partiels, le HDZ, le parti conservateur du Premier ministre, est arrivé en tête avec une confortable avance sur son principal opposant, le président croate, un social-démocrate. Mais rien n'est encore stabilisé, le HDZ ne devrait pas décrocher de majorité. Il lui faudra donc une coalition pour briguer un troisième mandat, les précisions de notre correspondant Louis Seyé.
Le pari semble perdu pour le président candidat Zoran Milanovic. Sa rhétorique populiste et ses provocations multiples n'ont pas permis à sa liste de gauche de mettre fin à l'hégémonie du HDZ. Malgré les scandales de corruption qui n'ont cessé de secouer son gouvernement, le Premier ministre Andrei Plenković et son parti conservateur terminent largement en tête pour la troisième élection consécutive depuis 2016. Mais avec une soixantaine de députés sur 151, les négociations s'annoncent longues et compliquées pour former une majorité parlementaire. Arrivés en troisième et quatrième position, les partis d'extrême droite et ultra-conservateurs pourraient jouer au faiseur de roi. Toutes les options restent cependant sur la table et certains analystes estiment qu'une fragile majorité à un siège n'est pas à exclure. Surtout que les sociaux-démocrates n'ont pas dit leur dernier mot et ils ont renouvelé leur proposition de fédérer les opposants au HDZ avec une improbable union allant de la gauche écologiste qui double son nombre de députés à l'extrême droite. Avec un troisième mandat du Premier ministre Plenković, la Croatie devrait en tout cas conserver son positionnement pro-occidental en soutien ferme à l'Ukraine.
Et à partir de demain, ce sont les Indiens qui seront appelés aux urnes. Un scrutin étalé sur un mois et demi pour renouveler les députés et le Premier ministre. Le sortant Narendra Modi vante son bilan économique, symbolisé selon lui par une croissance de 7%. Pourtant, les inégalités n'ont jamais été aussi importantes dans le pays. Elles se sont même creusées au cours de ces deux mandats. Alors à l'approche des élections, le dirigeant a développé les programmes d'aide pour les plus pauvres. Valérie Krova.
Le quartier de Gavinpuri, dans le sud de New Delhi, a vu récemment des barres d'immeubles se construire. Ici sont logées 3000 personnes qui, comme Anita, habitaient dans un bidonville.
Modi a fait beaucoup de bonnes choses pour nous. Je vivais dans un endroit délabré, mais Modi m'a fourni un bon logement. C'est un beau geste pour les pauvres et j'en suis heureuse.
Le Premier ministre indien a-t-il eu une arrière-pensée électorale quand il a prolongé juste avant la campagne la distribution gratuite de vivres qu'il avait instauré au moment de la crise du Covid. 3 kilos de riz et 2 kilos de blé par mois et par famille, 800 millions de personnes bénéficient de cette aide alimentaire. Les pauvres s'appauvrissent et les riches s'enrichissent. C'est ce que représente pour nous le statut de l'Inde en tant que 5e économie mondiale, nous dit cette femme qui gagne sa vie comme domestique. Amit Thora travaille sur les inégalités à l'université JNU de Delhi.
1% de la population se partage environ 40% de l'économie. Aujourd'hui, nous sommes plus inégalitaires qu'à l'époque britannique. La différence entre les riches et les pauvres n'était pas si grande. Aujourd'hui, c'est ahurissant. C'est la pire au monde.
En dépit du creusement des inégalités, Narendra Modi demeure étonnamment populaire parmi les plus démunis, résignés à assurer leur survie quotidienne.
Le reportage de nos envoyés spéciaux à New Delhi, Valérie Krova et Fabien Gosset. Ces élections législatives en Inde seront également au cœur de la discussion des matins à partir de 7h40.
En attendant, il est 7h06 sur France Culture. C'est la suite du journal de Valentin Bertrand. Gérald Darmanin ordonne un couvre-feu à Pointe-à-Pitre.
Oui, pendant les deux prochains mois, tous les mineurs devront être rentrés chez eux. À 20h, dernier carat, le couvre-feu entrera en vigueur. En début de semaine prochaine, une décision prise, selon le ministre de l'Intérieur, pour enrayer une flambée de délinquance. L'inflation ralentit, mais pas les tentatives des industriels pour augmenter leurs marges. L'association Foodwatch alerte sur des nouveaux produits victimes de cheapflation. Un changement de recette en bon français pour réduire les coûts. Dans cette nouvelle campagne, l'ONG épingle 6 produits. Parmi eux, des cordons bleus Le Gaulois, des hachés de jambon fleurimichon et des yaourts à la vanille de la marque Nestlé. Si la pratique est tout à fait légale pour Foodwatch, elle est surtout trompeuse, Thomas Pinaroli.
Ces modifications ne sont pas clairement signalées sur les emballages, pas de mention changement de recette par exemple. Dans le meilleur des cas, l'indicateur Nutri-Score change de lettre, passant de A à B, de B à C. Trop limité pour Audrey Maurice, responsable de campagne à Foodwatch.
Ça signifierait devoir se souvenir du Nutri-Score de l'ancienne recette. Donc c'est très compliqué. La cheapflation, c'est une pratique opaque qui nécessite pour la repérer d'être en capacité de suivre l'évolution de la composition du produit dans le temps et l'évolution de son prix.
Ces changements ont pourtant des conséquences sur ce que l'on mange, plus gras, plus salé, plus sucré. Exemple avec le cordon bleu épinglé par Foodwatch, la quantité de viande et de fromage a baissé, compensée par plus de panure.
On voit bien qu'on a une diminution des quantités des ingrédients nobles, en tout cas ceux qu'on recherche dans le produit, en parallèle d'une augmentation des ingrédients probablement les moins chers. Ça démontre quand même une tendance qui est assez inquiétante pour la qualité des produits.
D'autant que la cheapflation semble prendre de l'ampleur. L'ONG a reçu plus de 1000 signalements de consommateurs à la suite de sa première enquête révélée en février.
Ce qui est problématique, c'est que c'est visiblement une pratique qui est généralisée dans tous les rayons. On a épinglé à la fois de la mayonnaise, des produits surgelés, des goûters pour enfants, des produits transformés, des yaourts. Donc ça touche tous les rayons, ça touche tous les produits de consommation. Et c'est bien là le problème, c'est que c'est des produits que les gens vont acheter au quotidien.
Et puis ces changements s'accompagnent de hausses de prix entre 15 et 25%. Chez les industriels, on assure que ces choix sont contraints par l'inflation et les pénuries de certains ingrédients. Pour en avoir le cœur net, Foodwatch leur demande de publier les marges de chacun de ces produits.
Et Foodwatch appelle par ailleurs le gouvernement à changer la loi pour interdire cette pratique. Sa pétition en ligne a recueilli 45 000 signatures. Le gouvernement également attendu sur la question de l'attractivité des services publics à la peine quand il s'agit de recruter. Pour y remédier, le député Renaissance David Amiel a remis des recommandations. Il propose de faciliter l'accès au logement, notamment en élargissant la garantie visale aux fonctionnaires de plus de 30 ans ou encore en leur réservant des logements sociaux. Catherine Pétillon.
Il faut une reconnaissance du travail des agents publics de première ligne. On ne peut pas chasser des villes ceux qu'on a applaudis aux fenêtres pendant le Covid. Voilà ce que pointait le député David Amiel en présentant hier son rapport. Parmi les pistes sur la table pour mieux loger les fonctionnaires, il y a améliorer leur accès au logement social, devenu de plus en plus difficile. Pourtant, de nombreux fonctionnaires, notamment des catégories C et B, pourraient y être éligibles étant donné leurs faibles revenus. À titre d'exemple, fin 2023, sur les 105 000 demandes de logement social formulées par des fonctionnaires de l'État, seules 21 000 attributions avaient été réalisées. Principale nouveauté suggérée par le député, produire de nouveaux logements sociaux et intermédiaires qui pourraient être réservés à des fonctionnaires et dont l'usage pourrait être délimité dans le temps et lié à une fonction. Par exemple, quelqu'un qui vient s'installer dans une région comme aide-soignant ou infirmière, logement que la personne devrait ensuite quitter. Autre recommandation, améliorer la gestion du contingent préfectoral, à savoir les 5% de logements sociaux réservés aux fonctionnaires d'État et notamment identifier des secteurs géographiques et des types de logements prioritaires. Le rapport recommande aussi d'encourager les employeurs publics à investir via l'achat de droits de réservation, c'est-à-dire un nombre de logements qu'ils peuvent ensuite proposer à leurs salariés, une manière de soutenir les bailleurs dans la construction. Voilà qui souligne le fond du problème. La production de logements sociaux est en baisse constante depuis quelques années. Inverser la tendance demanderait des réponses structurelles.
Catherine Pétillon. Des accusations d'agression sexuelle à Saint-Cyr. La justice annonce l'ouverture de 3 enquêtes. Toutes concernent le campus situé dans le Morbihan. Selon les témoignages recueillis par France Télévisions, l'école militaire aurait découragé une élève de raconter le baiser forcé d'un officier dont elle dit avoir été victime. L'établissement affirme de son côté prendre des mesures. Dans une autre affaire, un élève a été suspendu. Les fabricants français de panneaux photovoltaïques ont toujours le plus grand mal à se faire une place au soleil. Hier, l'entreprise Systovi a annoncé l'arrêt de son activité. Les 87 salariés de son usine de Carquefou, près de Nantes, seront licenciés. Un choix douloureux pour cette PME en grande difficulté financière et qui a cherché en vain un repreneur. Mais Célia Gutti, les investisseurs sont très frileux face à la concurrence des panneaux solaires chinois.
La chute a été fulgurante pour Systovi. L'année dernière encore, la PME était l'une des 2 dernières fabricantes de panneaux photovoltaïques en France. Elle réalisait 21,5 millions de chiffres d'affaires. Les commandes étaient en augmentation de 50%. Une nouvelle ligne de production avait été introduite. Mais l'élément perturbateur est là. En été 2023, l'Inflation Act américain interdit la vente de panneaux solaires chinois et étrangers sur son territoire. En quelques semaines, le marché européen a été submergé par des panneaux venus de l'Empire du Milieu, ultra compétitifs. Les prix ont chuté de 25%. Selon la Tribune de Genève, en septembre, il y avait assez de modules chinois stockés aux Pays-Bas pour répondre à la demande européenne pendant 2 ans. La fermeture de Systovi est devenue inévitable pour Paul Toulouse, le directeur de l'entreprise. Pas le temps d'attendre la mise en place de mesures protectionnistes dans l'Union européenne qui prendrait 1 ou 2 ans. L'entreprise a annoncé hier sa fermeture. À peine 10 jours avant, pourtant, le gouvernement annonçait un plan de bataille de l'énergie solaire. Objectif pour Bruno Le Maire, produire en France 40% des panneaux photovoltaïques que nous utilisons.
Et on termine avec un mot de météo avec un temps plus calme à l'ouest et au nord. Et une perturbation qui arrive sur le sud avec une succession d'averses, parfois orageuses en région PACA et en Corse. Le retour de la neige aussi en basse altitude à partir de 500 mètres. Les températures, il fait ce matin entre 0 et 4 degrés au nord, entre 3 et 8 sur le reste du pays. Et cet après-midi, on attend en général de 12 à 16 degrés, de 10 à 13 dans le centre et le nord-est, et jusqu'à 19 au bord de la Méditerranée. C'est la fin de ce journal. Et c'est à vous, Guillaume Erner.
Merci, Valentin Bertrand. Dans quelques secondes, la question du jour de Marguerite Caton. La psychiatrie peut-elle répondre au mal-être des enfants et des adolescents?